BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous J'ai dit, il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir, Audrey.
Bonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Et donc, dans l'actualité, ce plan contre la crise du logement que Elisabeth Borne vient de présenter à Paris, qui était censé répondre à une partie de la crise que subissent les Français, mais qui ne convainc absolument pas. On va retrouver Thomas Schnell qui est sur place pour BFM Business, puis c'est un promoteur qui sera avec nous pour en parler plus longuement dans un quart d'heure.
Et sinon, c'est du côté d'Apple que l'on va regarder ce soir, puisque le patron du groupe pourrait annoncer tout à l'heure, lors d'une keynote, le lancement d'un casque de réalité mixte. Et figurez-vous que ça fait 9 ans, depuis 2014 et l'Apple Watch, qu'il n'y a pas eu d'innovation produit majeure au sein d'Apple.
Ça ne nous rajeunit pas, voilà les grands titres. Et puis 19h30, c'est Yves Perrier, le patron de la banque Rothschild, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. Voilà le programme non exhaustif, évidemment. On est ensemble jusqu'à 20h.
Et tout de suite, c'est le journal.
Good Evening Business, le journal.
Donc, elle vient de s'exprimer, Elisabeth Borne, qui a présenté ce plan qui circule depuis 24 ans maintenant, censé résoudre d'une partie, c'était le but de la crise du logement que subissent des millions de Français. Bonsoir Thomas Schnell, vous êtes sur place pour BFM Business. C'est un plan, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous l'avez vous-même constaté, qui ne séduit pas vraiment les professionnels. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
Beaucoup de déception, même de la colère qui s'est entendue dans les mots d'Olivier Salleron de la Fédération Française du Bâtiment, qui dénonce un décalage entre la bombe sociale à venir et la faiblesse des mesures prises. Ce soir, tout un secteur méprisé, selon les mots du communiqué qu'il a lu juste avant le discours d'Elisabeth Borne. Donc la Première Ministre a confirmé le prolongement du prêt à taux zéro, mais qui est recentré seulement autour de l'achat de neuf dans le collectif. Exit donc les maisons neuves. La fin également du Pinel, sans alternative pour la fiscalité des bailleurs privés, et le rééquilibrage fiscal entre les locations de courte et de longue durée pour empêcher le développement des meublés touristiques type Airbnb. Ce sera prévu dans le projet de loi de finances 2024. Un plan donc technique sans mesure choc comme l'encadrement des prix du foncier. Une douche froide pour les entrepreneurs secteurs. Donc 19 mesures, 5 objectifs. Principalement faciliter l'accès au crédit, l'accès à la propriété, à la location, rénovation du logement et renforcer également la construction et amplifier la rénovation énergétique.
Merci beaucoup Thomas Schnell, donc à la Cité de l'Architecture où Elisabeth Borne vient de s'exprimer. Tollé quasi généralisé, Audrey, du côté des acteurs du logement ce soir. Hein.
Et oui, ce n'est rien de plus qu'un plan de débranchement finalement des aides publiques. Alors il faut dire que le gouvernement finalement est en accord avec sa politique de réduction justement des dépenses publiques. Maintenant, est-ce que c'est une bombe sociale qui s'annonce? Probablement. Et je vous rappelle que fin 2022, il y avait plus de 2,4 millions de ménages qui patientaient en France pour bénéficier d'un logement social, sachant que la durée moyenne c'est 8 ans. Il semblerait que ce plan n'apporte aucune réponse.
Voilà pour ce plan donc Elisabeth Borne vient de présenter. Je vous rappelle, c'est le promoteur Norbert Fanchon, le groupe Gambetta, qui sera avec nous dans une dizaine de minutes pour en parler sur BFM Business. 19h03, on le disait, ça sent la grosse annonce ce soir chez Apple en Californie. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Il y a une keynote là qui vient de débuter à Cupertino.
Il y a 3 minutes.
Voilà. Et c'est intéressant parce que Tim Cook pourrait annoncer le lancement d'un casque de réalité mixte.
Oui, et tous les détails sont bons pour les experts. Vous savez, vous connaissez ce siège d'Apple en forme d'immense anneau, l'Apple Park. Donc, il y a une partie où se déroule la keynote, un bâtiment qui est légèrement à côté. Et certains ont repéré déjà un autre bâtiment éphémère et qui serait l'endroit où, justement, on pourrait tester ces casques de réalité mixte. Réalité mixte, pourquoi? Parce qu'ils sont à la fois de la réalité virtuelle, à la fois de la réalité augmentée. Le principe du casque, vous avez des écrans à l'intérieur. Quand vous voulez faire de la réalité virtuelle, eh bien vous regardez ce qui se passe à l'intérieur. Quand vous voulez faire de la réalité augmentée, vous avez une quinzaine de caméras qui sont tout autour du casque, qui vont filmer tout votre environnement et qui vont vous les projeter. C'est un enjeu de taille. Alors, premier produit présenté par Apple, il faut quand même le dire, depuis 9 ans. Et oui, on a l'impression que c'est des nouveautés, mais en général, c'est des mises à niveau. Enfin voilà, il y a pas mal d'innovations, bien entendu, mais ça reste sur les iPads, sur les iPhones, sur les montres. Mais justement, la montre, c'était le dernier produit sorti il y a exactement 9 ans. Donc là, on attend impatiemment ce produit. Surtout qu'il aurait dû dû être présenté l'année dernière dans le One More Thing, on l'a pas eu, donc on est toujours en attente. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, alors la bataille, déjà la concurrence est sérieuse avec les Meta, avec les Google, avec les Samsung, et puis ces casques de réalité mix, réalité virtuelle, réalité augmentée, on va les retrouver où? On va les retrouver dans les jeux vidéo, bien entendu, mais aussi dans toutes les applications B2B de formation pour les médecins, de formation dans le bâtiment, de formation dans le nucléaire, par exemple. On va les retrouver aussi, eh bien, on parlait d'immobilier, bien pourquoi pas pour visiter des appartements, enfin voilà, c'est vraiment dans tous les secteurs, même pour visiter des magasins, faire son shopping. Donc ces casques sont vraiment nos outils de demain, à tel point qu'on se dit ça pourrait peut-être même un jour être notre smartphone de demain. Eh bien oui, avoir une petite, si on réduit tout ça, une petite paire de lunettes. Alors il y a toute l'histoire d'autonomie de batterie encore à résoudre, mais pourquoi pas avoir un jour une simple lentille dans l'œil et pouvoir continuer à communiquer. Vous pourrez dire, eh bien, le 5 juin 2023, j'ai vu naître un peu cette ère des nouveaux smartphones.
Eh ben voilà, Tim Cook est en train de s'épancher, on l'écoute. Et puis, édition spéciale ce soir sur BFM Business.
Oui, parce qu'ils annoncent bien entendu des Mac, nouvelle iOS. C'est la conférence développeur. C'est une conférence pour le grand public, entre guillemets. C'est vraiment une conférence destinée aux développeurs de la marque Apple.
Édition spéciale à partir de 20h, Tech & Co avec François Sorel, bien sûr, et toute l'équipe pour décrypter les annonces de Tim Cook. Merci beaucoup, Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. 19h06 dans l'actualité des entreprises toujours. Il y a une très très grosse commande qui se précise pour Airbus, puisque cette fois c'est la compagnie indienne Air Indigo qui pourrait lui commander, tenez-vous bien, 500 appareils d'un seul coup. 500 monocouloirs de la gamme A320. Il y en a pour quasiment 50 milliards de dollars. Jean-Baptiste Huette.
En Inde, pour Airbus, le soufflet ne retombe pas. Après une commande d'Air India de 250 appareils il y a quelques mois, voici maintenant 500 appareils pour la compagnie Air Indigo. La low-cost contrôle là-bas plus de 50% du marché. Selon toute vraisemblance, cette incroyable commande devrait être annoncée à l'occasion du Salon du Bourget dans quelques jours. Les rumeurs de ce contrat historique circulent déjà depuis quelques mois. Air Indigo commanderait donc 500 monocouloirs de la famille A320 pour 50 milliards de dollars au prix catalogue. Air Indigo, décidément un client privilégié pour Airbus, puisque la compagnie a déjà acheté 250 appareils en 2015. Cette nouvelle commande illustre l'incroyable vitalité du secteur aérien indien, en pleine expansion et en cours de modernisation. C'est le troisième marché mondial après les États-Unis et la Chine. Le trafic devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 6,6% au cours des 20 prochaines années. De quoi donner des sueurs froides aux industriels de l'aéronautique qui vont devoir plus que jamais mettre les bouchées doubles pour honorer ces avalanches de commandes.
Voilà, confirmation de plus que ça repart décidément très très fort dans le secteur aérien. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. Et puis chez Atos, c'est une information BFM Business. Chez Atos, c'est l'ancien patron de HP et de SAP, Léo Apothécaire, qui pourrait prendre les commandes du groupe prochainement. C'est le fonds Sycomore qui est actionnaire d'Atos qui voudrait soumettre sa nomination d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Mathieu Pechberti nous raconte ça.
C'est effectivement la place pour la présidence d'Atos qui est un peu en jeu. Il y a une assemblée générale importante chez Atos qui se tient le 28 juin dans 3 semaines. Et donc, c'est cette bataille-là qui est en train de se jouer. Alors, le fonds Sycomore est actionnaire d'Atos depuis pas mal de temps et milite depuis de longs mois maintenant pour évincer Bertrand Meunier, l'actuel président d'Atos, ce qu'il a déjà dit. Mais là, il propose effectivement, selon nos informations, le nom une personnalité en tout cas connue dans le secteur de l'informatique, c'est Léo Apothécaire, un dirigeant allemand qui a dirigé HP et SAP, l'éditeur de logiciels. Alors pour le moment, le fonds Sycomore attend une réponse, on va dire formelle, de la direction d'Atos, mais nous, selon les sources que nous avons eues au téléphone, un proche du président d'Atos, Monsieur Meunier, clairement cette candidature n'est absolument pas la bienvenue. On souligne d'ailleurs, pour qu'on commence en tout cas la dynamité, on souligne que Léo Apothécaire, ce qui est vrai, a été à la fois évincé de HP et de SAP un an tout juste après son arrivée, donc il n'a pas laissé de très bons souvenirs dans ces deux entreprises, alors même que ça faisait partie des lignes, on va dire, importantes sur son curriculum vitae. Et puis on explique aussi, ce qui est vrai aussi d'ailleurs, que les résultats de l'Atos s'améliorent un peu. Alors, on est encore loin du redressement spectaculaire, mais
on a un cours de bourse qui quand même a du mal aussi, hein, voilà.
Alors un cours de bourse qui est tombé tellement bas qu'il ne pouvait que remonter, mais enfin c'est vrai que ça va un petit peu mieux qu'il y a 6 mois. Et donc Bertrand Meunier, dont il était question qu'il parte dès cet été, c'était le cas il y a encore 6 mois, pourrait partir plutôt à la fin de l'année prochaine, au moment où la société Atos doit se scinder en deux parties, ses activités historiques et puis ses activités d'avenir autour de la cybersécurité.
Voilà, Léo Apothécaire, l'ancien patron d'HP SAP, peut-être bientôt à la barre chez Atos. Les informations de Mathieu Pechberti que vous retrouvez sur notre site internet, bien sûr, bfmbusiness.com. Sinon, rappelez-vous, c'était en juillet dernier, ST Microelectronics annonçait un énorme projet, une énorme usine de semi-conducteurs près de Crolles, côté de Grenoble. Projet évalué à 7,5 milliards d'euros, sauf qu'on a appris ce matin que l'État français allait apporter 2,9 milliards. Écoutez la satisfaction du patron de ST Microelectronics, Jean-Marc Chéry.
Cette usine que nous avons décidée ensemble, plus de la moitié est déjà construite et plus d'un tiers est déjà équipé. Donc nous avons commencé la production donc dans cette nouvelle usine. Donc en fait, on peut se louer vraiment d'avoir été tous ensemble très vite comme une équipe. Alors pourquoi il est très important d'aller vite ? Tout d'abord, la compétition est extrêmement active. Tous les continents, États-Unis, Chine, Taïwan, Japon, se focalisent donc sur l'industrie des semi-conducteurs et la compétition est extrêmement féroce. Donc d'aller vite ensemble, c'était effectivement un paramètre majeur.
Voilà, Jean-Marc Chéry, le patron d'ST Microelectronics, hein, reçu ce matin à Bercy par Bruno Le Maire. Et puis alors, dans le secteur de la santé, un petit peu d'émoi du côté de l'Auvergne, parce que là-bas, vous avez une pépite française qui va être rachetée par le géant danois Novo Nordisk. L'entreprise en question, elle s'appelle Biocorp. Elle fabrique des capteurs intelligents, vous savez, pour ces stylos à insuline qu'utilisent régulièrement les personnes diabétiques. Hélène Cornet nous raconte ça.
Plus de 60 millions de personnes dans le monde utilisent un stylo injecteur à insuline, un nombre en constante augmentation. Autant dire que Biocorp est positionné sur un créneau porteur avec son stylo intelligent Malia, coiffé d'un capteur qui collecte automatiquement les données d'injection et les transmet en temps réel à une application mobile. C'est le seul système de ce type aujourd'hui autorisé. Un dispositif qui a attiré l'attention du leader mondial de l'insuline, le danois Novo Nordisk, d'une collaboration nouée il y a 2 ans, cela se transforme aujourd'hui en prise de contrôle. Le laboratoire offre une prime de 20% sur le cours actuel, valorisant le capital de Biocorp à 154 millions d'euros. La PME, basée à Issoire dans le Puy-de-Dôme, développe de nombreux dispositifs médicaux, mais c'est bien son capuchon connecté qui est mis en avant dans toutes les conférences internationales. Elle avait d'ailleurs prévu d'agrandir son unité de production, une extension qui sera maintenue et même renforcée par le groupe danois.
Voilà, la pépite française Biocorp, donc, qui va être racheté par le danois Novo Nordisk. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h12. On retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui a terminé en baisse de quasiment 1%. Pile sur la barre des 7200 points ce soir. Bonsoir Sabrina. Sabrina Caglesi qu'on retrouve à New York, bien sûr. Bonsoir. Comment ça se passe chez vous, Sabrina?
Eh bien, c'est partagé avec un indice Dow Jones qui continue de sous-performer, moins 0,2%, 33 692 points. En revanche, pour le S&P 500 et l'indice Nasdaq, c'est la hausse qui l'emporte, portée notamment par Apple qui évolue sur un niveau record avec une belle progression encore aujourd'hui dans le sillage, bien sûr, de l'événement Apple aujourd'hui. Le titre grimpe de 2,2%, 184,92 $. Le Nasdaq est bien parti pour enregistrer sa plus belle première moitié de l'année en bourse depuis 1991 avec une progression de plus de 26%. Belle performance donc pour l'indice Nasdaq, malgré des statistiques décevantes. On a eu l'ISM des services qui est ressorti en dessous des attentes sur le mois de mai et les commandes industrielles qui ont grimpé certes en avril, mais moins que prévu. Le marché donc partagé, le Dow Jones en repli de 0,2%, le S&P 500 et l'indice Nasdaq de leur côté affichent des progressions. Le Nasdaq plus 0,6% très exactement.
Merci Sabrina, on vous retrouve dans toute la soirée pour faire le point sur cette fin de séance du côté de Wall Street. 19h14, le plan logement d'Elizabeth Borne qui a convaincu quasiment personne du côté des acteurs du secteur. Le promoteur Norbert Fachon, patron du groupe Banque Gambetta, est avec nous pour en parler dans un instant sur BFM Business. A tout de suite.
Good evening business, ils font l'écho.
19h17, on continue à parler logement avec le président du groupe Gambetta. Bonsoir Norbert Fachon.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes promoteur et bailleur social, donc depuis ce matin, voire même depuis ce week-end, on entend des cris d'or frais de la part globalement de l'ensemble des acteurs du secteur immobilier qui nous disent finalement que ce plan du gouvernement n'apporte aucune solution à cette crise du logement qui est de plus en plus aiguë. Est-ce que vous aussi vous dites que encore une fois on est passé à côté du sujet?
Pour prendre une image, c'est un peu comme si on était dans une voiture. Le gouvernement regarde l'horizon et regarde devant. Et nous, professionnels, les promoteurs, les constructeurs, les clients aussi, les Français qui veulent acheter ou vendre, on regarde le compteur. Et le compteur, c'est moins 30% de maisons individuelles l'année dernière, moins 30% de transactions au premier trimestre, moins 50, moins 60% de logements neufs dans les grandes métropoles en France. Et donc, on considère effectivement que ce qui nous est proposé, et ce que la Première ministre a confirmé, n'est pas à la hauteur de cette crise. Un nouveau zonage en logement intermédiaire, oui. L'aide de CDC Habitat et d'Action Logement, c'est très bien, et heureusement qu'il y a ça, mais c'est pas assez, ça peut-être que ça fera 2023, mais on a un risque économique, un risque de chute dramatique du nombre de logements en 2024.
Qu'est-ce qui manque fondamentalement? Parce qu'on en a parlé depuis tout à l'heure et on en parle très régulièrement sur BFM Business. Oui. Il y a toujours le point noir qui revient sur le devant de la scène, c'est le manque de foncier, la difficulté à avoir du foncier et à construire suffisamment de logements neufs. Est-ce que c'est là-dessus que vous auriez aimé une action véritablement ciblée, une véritable action coup de poing finalement? Et de quelle manière?
Le foncier, très bien, mais c'est un sujet de long terme. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire que j'ai le sentiment que le gouvernement fait le pari de la décroissance. Alors c'est un peu surprenant, mais le gouvernement veut que les prix de l'immobilier baissent.
Oui.
Et c'est ce que dit la Première ministre. Et pour que les prix de l'immobilier baissent, ils veulent que la production baisse. Eh ben non, c'est contre-intuitif. Mais je crois que l'idée qu'on fasse 250 000 logements neufs par an, 200 000 logements de moins qu'en 2022, oui. Je crois que c'est ça que veut le gouvernement. Et moi j'y vois trois risques. Le premier risque, c'est un risque économique, c'est moins 60 milliards d'activités pour le pays. Donc c'est 10% du PIB, donc ça je vous parle de 2024. C'est forcément un risque social. On va dire quoi aux Français qui ont acheté il y a 5 et 10 ans? On va leur dire votre logement il vaut 20% de moins. On se retrouve un peu dans le cas des gilets jaunes et du diesel et de l'essence. Et puis le troisième risque, c'est le pari que fait le président et qu'il appelle de ses voeux, le pari du plein emploi et de la réindustrialisation. Mais on ne peut pas réindustrialiser le pays sans logement. On ne peut pas vouloir des ouvriers et ne pas les loger. Et donc ma crainte, c'est qu'on se retrouve comme en 2012, comme en 2014, dans un syndrome un peu François Hollande, où Hollande avait raté son quinquennat sur l'immobilier. Il avait été obligé de faire un plan de relance, en 2014, qui avait coûté beaucoup plus cher, qui avait été très bien pour le secteur. Mais je crois qu'on fait le pari de la décroissance, et c'est un peu ça que je regrette. Moins de logements pour avoir des logements moins chers, je suis pas sûr que le pari soit gagnant.
Alors, moins de logements et aussi moins d'emplois, hein, puisque certains professionnels disent que 300 000 emplois dans le secteur sont menacés sur 2022 et 2023. C'est ce que vous dites aussi ?
Alors là, chacun a ses chiffres. Je crois qu'il faut raisonner en chiffres nets. Il y a effectivement, il y aura moins de logements neufs. C'est environ 200 000 emplois. Et effectivement, par contre, le gouvernement accélère sur la réhabilitation. Et ça va créer des logements. Mais ça créera des logements sur un plus long terme et moins de logements. Donc je pense qu'en termes de net, on perdra 150 000 emplois, ce qui reste quand même astronomique. C'est pas 300 000, je pense que c'est un peu pessimiste, mais c'est au moins 150 000.
Mais pourquoi, Norbert, je poursuis là-dessus. Pourquoi on ne veut pas construire plus en France pour vous? La raison, elle est où aujourd'hui? Le blocage, il est où?
Je crois qu'il y a...
Le frein politique, il est où?
Il est environnemental. On considère environnemental, en France que le logement, c'est brun. Dans certains pays, le logement, c'est vert. Donc, en fait, dans la classification environnementale, nous, on considère que faire un logement neuf, ça émet du CO2. Nous, professionnels, on considère exactement le contraire. Un logement neuf, c'est super performant énergétiquement. Ça réduit les distances entre emploi et travail. Et donc, pour nous, un logement neuf, c'est bénéfique à l'environnement. Mais le gouvernement, dans sa classification, a décidé que c'était brun. Donc il y a un sujet environnemental.
Oui.
Et puis je crois, malheureusement, que ce gouvernement ne croit pas, et c'est ce que dit Bruno Le Maire dans ses déclarations aussi, ne croit pas au bénéfice économique de faire un logement neuf.
Mais alors, pour être très concret, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement aider les promoteurs à retravailler et puis pour aider aussi les investisseurs institutionnels à se repencher sur le sujet?
Alors, le sujet, c'est pas d'aider les promoteurs à travailler. Enfin, oui, c'est bien pour moi.
Ah, entre autres, non, mais enfin, ça en fait partie en tout cas.
Le sujet, c'est aussi de loger les Français. Enfin, faut revenir à quoi sert un logement. Un logement, ça sert à se loger et à partir du moment où on a un logement, on construit sa vie. Alors, c'est bien pour les promoteurs, c'est bien pour les bailleurs derrière. Effectivement, il y a du business. Il y a trois types d'acquéreurs. Dans un logement. Il y a les accédants à la propriété, donc ça c'est le sujet du prêt à taux zéro. La mesure qu'il fallait faire, c'était l'étendre, l'élargir, et là on l'a restreint. On l'a interdit pour la maison individuelle. Je ne fais pas de la maison individuelle, donc ça ne me concerne pas, mais je trouve que c'est une mauvaise décision pour le marché. Le deuxième type de clients, ce sont les investisseurs, que ce soit des particuliers ou des institutionnels. Pour la première fois depuis 40 ans, depuis 1986, on n'aura plus de dispositif fiscal en 2025 pour aider les investisseurs.
C'est-à-dire notamment que la loi Pinel terminée.
Disparaît, voilà. Et 1986, loi Améniori, une décision politique qui veut dire on a des investisseurs institutionnels qui possèdent des paquets de logements, on va les remplacer par plein de particuliers. C'est un choix politique. Là, il n'y a plus rien. et on n'aide même pas les institutionnels à revenir sur le marché.
C'est-à-dire quand Bruno Le Maire dit le Pinel n'a pas fait la preuve de son efficacité, vous n'êtes pas d'accord avec lui, très clairement. Vous dites.
Ouais, c'est une affirmation gratuite qui n'est pas chiffrée, comme quand il dit le PTZ coûte cher, et il ne met pas un chiffre derrière. Pour un ministre de l'économie qui est, dit il y a 63 500 Pinel, très exactement, et après il dit ça coûte cher, alors ça coûte 1,3 milliard. Pour un budget de 2 milliards dans la nation. Mmh. Et donc, le budget fait 600 millions d'économies. Et la Première ministre nous dit tout à l'heure qu'en 2024, le budget sera de 600 millions. Donc, le budget PTZ aura été divisé par 3 en 2 ans. Est-ce qu'on veut aider les Français à devenir accès dans la propriété? La réponse est non.
Mais si on en revient au sujet de libération du foncier, qui est quand même un sujet essentiel, est-ce que vous dites qu'il faudrait passer finalement au-dessus des maires et puis donner plus de pouvoir peut-être aux préfets?
Ça, c'est un vaste sujet politique et on ne va pas le régler tous les trois en cinq minutes.
Non, mais vous, votre position sur le sujet, c'est quoi?
C'est un sujet tabou par excellence.
C'est un sujet tabou, mais c'est un sujet démocratique. Dans les années 70-80, c'était les préfets qui délivraient les permis. Est-ce que c'était bien qu'une autorité gouvernementale qui n'a pas la connaissance du territoire délivre un permis de construire? Je ne suis pas sûr. Ouais. Est-ce que c'est bien qu'un maire qui est soumis à la pression de ses électeurs délivre un permis de construire? Je ne suis pas sûr non plus. Et donc, il faut retrouver un système de régulation entre les maires qui sont bâtisseurs et qui ne sont pas soutenus par leur population, et puis des maires effectivement qui sont un peu malthusianistes et qu'il faudrait voir avoir plus de contraintes au niveau de la préfecture. Mais c'est un vrai sujet démocratique, ouais. Et franchement, on ne va pas régler ça en six mois.
Dernière question, Norbert, vous êtes promoteur, c'est quoi la réalité du terrain aujourd'hui des promoteurs? C'est des chantiers qui commencent, qui s'arrêtent, qui restent à l'arrêt, qui restent en jachère? Comment ça se passe aujourd'hui?
Alors quand on a commencé un chantier, on ne peut pas l'arrêter.
On ne peut pas l'arrêter.
Il faut le finir.
Après, ça évolue au rythme où ça évolue, malheureusement. Hein,
voilà, tout à fait. Ça évolue au rythme des entreprises. Et donc, ce qu'on est en train de se dire aussi, c'est un risque économique sur les entreprises du bâtiment, oui. Et donc des entreprises qui pourraient déposer le bilan. Et c'est aussi ce qu'on commence à voir venir. Et puis, c'est surtout ce qu'on est en train de vivre, des chantiers qui ne commencent pas.
Oui.
Parce qu'on n'a pas les clients en face. Et donc, en fait, nous, au groupe Gambetta, on re-questionne opération par opération. Est-ce qu'on a des clients? Si oui, combien? Et est-ce qu'on peut démarrer? Parce qu'on ne va pas démarrer un chantier sans clients pour faire plaisir à l'élu qui nous a délivré.
Donc il y a beaucoup de chantiers qui ne démarrent pas en l'état actuel des choses.
Il y a beaucoup de chantiers qui prennent du retard, ça c'est clair, parce qu'il faut re-questionner, est-ce que c'est opérationnel? Et effectivement, il y aura beaucoup de chantiers qui ne démarreront pas.
Mais alors, une dernière question, puisque vous êtes aussi bailleur social, oui. Est-ce que les 2,4 millions de ménages français qui attendaient fin 2022 un logement social vont justement trouver une situation encore pire finalement en 2023?
Ah oui, 2023 non, mais 2024-2025, si on passe de 450 000 logements neufs par an, si on en perd 200 000,
bah oui, forcément
la situation va se dégrader. Et ça va se dégrader sur toute la chaîne, dû effectivement de l'accession à la propriété au logement social, et y compris sur des situations un peu dramatiques de logements d'urgence, dans des hôtels pas forcément bien famés ou dans des caravanes, quoi. Donc oui, le mal-logement va progresser en France. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense.
Eh ben voilà, merci beaucoup, merci. Norbert Fanchon. Merci de passer nous voir, président du groupe Gambetta, du promoteur Gambetta, promoteur et acteur du bailleur social. Merci de passer nous voir ce soir sur BFM Business, 19h25.
Et c'est l'heure de la grande interview. Edwige Chevrillon nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Audrey, bonsoir Guillaume.
Bonsoir Edwige.
Votre invité ce soir.
Yves Perrier, il est depuis quelques semaines président de la banque Edmond Rothschild. Il était avant président, trois petits points, fondateur d'Amundi, qui gère un peu plus de 2000 milliards. On essaiera de comprendre un peu ce qui s'est passé sur les notations. Est-ce que c'est un sursis, c'est un blanc-seing? Est-ce que la France a de quoi tenir les promesses, hein? Pas évident. Et puis, bien sûr, on parlera de son livre qui est absolument passionnant, savoir d'où vient le déclin, notamment industriel français. Et lui dit, il faut qu'on réinvente, notamment les entreprises, il faut qu'elles se réinventent. Il faut faire un pacte entreprise, État, citoyen, sinon on n'y arrivera pas.
Passionnant.
Voilà, Yves Perrier, donc patron de la banque Rothschild, la grande interview, Edwige Chevrillon, 19h30, 20h dans un instant. Et nous, on se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures.
Et oui, en attendant, comme tous les soirs, l'émission est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et tout de suite, c'est la grande interview.
Bonne soirée, à demain.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois ce soir Yves Perrier. Il est depuis quelques semaines, voire quelques jours simplement, président de la banque Edmond Rothschild. Il était surtout, j'ai envie de dire avant, président fondateur d'Amundi. Amundi, vous savez, c'est le gestionnaire d'actifs qui gère à peu près de plus de 2 milliards d'euros. Yves Perrier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. La dernière fois, vous étiez venu en tant que patron d'Amundi. Là, maintenant, donc, vous venez en tant que président de la banque Edmond Rothschild, évidemment, avec comme patron opérateur. opérationnelle à Rennes de Rothschild. Mais pour l'instant, on va parler aussi de votre livre « Quelle économie politique pour la France ?» pour un nouveau pacte État-entreprise-citoyen, un livre que vous écrivez avec François Ebal, qu'on connaît bien aussi ici à BFM Business, aux éditions de l'Observatoire. Et j'ai envie de dire, tout va se recouper, un peu se mélanger, du reste, on voit bien. Mais évidemment, une réaction, vous qui, le grand gérant de fonds, réaction sur la notation de la dette française. On a vu évidemment la dégradation de Fitch, et on a vu vendredi que Standard & Poor's finalement a maintenu la dette de la France avec une perspective quand même négative. Est-ce que pour vous c'est un blanc-seing? Est-ce que c'est un sursis pour la dette française? Comment est-ce que vous analysez cette décision de Standard & Poor's qui a salué les réformes, surtout la réforme des retraites?
Écoutez, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Il vaut mieux une note maintenue, même avec une perspective négative, qu'une note dégradée. Cela étant, les fondamentaux de la France, dans ses grands équilibres, déficit budgétaire, endettement, sont pas bons. Ils doivent être redressés. Au fil du temps, soit nous serons capables, comme l'exprime le gouvernement, de redresser les finances publiques, à la fois par une dynamisation de l'activité, mais aussi une réduction des dépenses publiques. Et notre note se maintiendra, ou elle, autrement, si on n'y arrive pas, elle ne se maintiendra pas. Et les investisseurs, à un moment donné, peuvent se détourner de la dette. Vous savez, les marchés financiers sont lents, ils suivent, etc. Mais lorsqu'ils changent d'avis, en fait, ça peut être très brutal. Et donc, redresser nos finances publiques, c'est vraiment un objectif clé pour le pays dans la période qui vient. J'ajoute qu'on a 3 000 milliards de dettes, mais plus de la moitié est détenue par l'étranger. Donc, notre vulnérabilité est plus forte. Et avec le contexte de remontée des taux d'intérêt durables, vous savez, à horizon 5 ans, si les taux se maintiennent au niveau actuel, c'est-à-dire de l'ordre de 3%, c'est à peu près 25 milliards de charges financières en plus.
Oui, on dit que ça atteindrait même 70 milliards.
Oui, 70 milliards, c'est en fait le premier budget de l'État. On n'a pas le choix.
Mais on n'a pas le choix. En même temps, on verra si la France est capable de tenir ses promesses. Juste certains disent, mais en fait, Bruno Le Maire, évidemment, salue le signal positif pour la France. Est-ce que c'est pas si positif que ça? Vous êtes d'accord, Yves Perrier? C'est pas un non-événement.
Non, mais c'est pas un non-événement. Je crois que le problème de la dette, c'est le symptôme ultime, du déclin, de l'affaiblissement économique français. Mais c'est par lui que peuvent venir tous les problèmes. Et qu'on peut perdre, en fait, la maîtrise des événements. Il faut vraiment maintenant s'engager dans cette opération de transformation.
Est-ce que vous pensez, vous qui les connaissez très bien, vous les côtoyez depuis tellement longtemps, ces agences de notation, le fait si la réforme des retraites n'avait pas été, enfin j'ose pas dire votée, en tous les cas adoptée au forceps, est-ce que ça aurait changé la perspective de Standard & Poor's notamment?
Ça l'aurait pas amélioré.
Non, ça je vous remercie, oui, ça je pense que vous l'avez trouvé toute seule.
C'était un élément important, mais simplement, tout ne se résume pas à la réforme des retraites. On a 150 milliards de déficit budgétaire. Un déficit primaire de plus de 100 milliards. L'Italie a un excédent primaire, par exemple, pour vous donner une comparaison. Donc, les agences de rating, comme les investisseurs, regardent les faits, si vous voulez. Oui, cette réforme des retraites est positive. Elle a un impact, d'une dizaine de milliards d'euros d'économie, mais c'est pas suffisant.
Mais enfin, Yves Perrier, est-ce que vous pensez, sans faire de langue de bois, même si c'est compliqué, vous êtes banquier, est-ce que la France peut, Bruno Le Maire peut tenir ses promesses? Parce que les promesses, il a dit, une trajectoire de désendettement, des réformes, d'autres réformes, bon, on attend de voir lesquelles, lorsqu'on voit le calendrier parlementaire, on dit que c'est pas évident, le gel des crédits en 2023, des économies en 2024, on sait pas forcément où est-ce qu'elles sont. C'est possible, c'est tenable, c'est crédible, sachant qu'il y a encore demain un mouvement social contre cette réforme des retraites dans un climat social très tendu.
Je pense qu'on en est arrivé là, à ce point de déficit public, qui n'est pas nouveau. Depuis 1973, la France n'a jamais voté un budget à l'équilibre. Sous De Gaulle, Pompidou, 13 sur 14 budgets ont été votés à l'équilibre. Ouais. La dette publique représentait en 81 18% du PIB. Aujourd'hui, c'est 115%. Donc, ça a été un mouvement continu. Et donc, si on veut, régler cette question, je pense qu'en fait, il faut la prendre de manière globale. Vous voyez, derrière la question des retraites, c'est travailler plus.
Oui.
Et en France, vous savez, je le mets dans mon livre, c'est qu'on est le pays au monde. Quand vous prenez le nombre d'heures travaillées rapportées à la population, qui est le plus faible, 635 heures, c'est 680 heures en Allemagne, 700 heures pour la moyenne de l'Union européenne, et c'est 800 pour la moyenne de l'OCDE. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie, si vous voulez, au fond, avant d'être des règles, c'est du travail et c'est du capital.
Oui, oui, on va y revenir, on va y revenir, parce que d'abord, je trouve dans votre livre, vous faites une analyse du déclin français depuis 1973, avec cette rupture entre les entreprises et l'État en 1980-81 avec les nationalisations, que je trouve très intéressant. On va y revenir. Juste, tiens, du reste, dans votre livre, vous dites le capitalisme financier que vous avez incarné, vous incarnez toujours, il a creusé les inégalités, il a détruit les classes moyennes. Bon, on fait quoi pour réparer? On leur fait une baisse d'impôts de 2000 milliards?
Non, on le réforme, ce capitalisme, parce que fondamentalement, c'est le capitalisme, c'est quoi? C'est pas une idéologie, c'est un mode de production. C'est le mode de production qui a fait que l'humanité, qui vivait en gros au début du 19e, comme au temps des Romains, s'est développé, a complètement changé.
Oui, mais lequel capitalisme? Aujourd'hui, ce qui prédomine, et vous y avez contribué, pardonnez-moi, c'est le capitalisme financier.
Ce qui s'est passé, ça s'est passé aux États-Unis, et comme tous les choses, toujours, c'est la puissance dominante qui le fait, c'est que le capitalisme aux États-Unis a muté du fordisme, qui était un capitalisme industriel de long terme où la finance est au service de l'industrie, bon, je schématise, un capitalisme financier qui est avec une logique de rentabilité à court terme et de maximisation de la valeur boursière. Oui, mais d'autres pays n'ont pas fait ce choix-là. Si on prend l'Allemagne, par exemple, elle est restée dans son capitalisme rhénan, capitalisme industriel, de long terme, etc. D'autres pays, comme je pourrais vous prendre la Corée du Sud, n'ont pas fait ce choix. Et en fait, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de remettre ce capitalisme avec une vision de long terme et au service du développement, je veux dire, des richesses. Parce qu'il pose un problème d'inégalité, ce capitalisme, mais pas simplement, mais aussi un problème d'efficacité. Je veux dire, dans le contexte, si vous voulez, de pays comme les États-Unis, on prend l'Angleterre et la France, c'est les trois pays qui ont le plus joué ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la désindustrialisation.
Oui, mais parce que c'est donc le capitalisme financier.
Celui-là, oui.
Oui, mais en même temps, vous dites, c'est ça qui est paradoxal, vous dites aussi la globalisation, la France a loupé la globalisation.
Mais parce qu'elle a
joué... Et en même temps, alors, donc, elle a pas loupé la globalisation du capitalisme financier. Alors, on est mauvais sur tous les tableaux.
Non, mais quelque part, pour faire simple, au début des années 90, le monde patronal s'est rallié au capitalisme financier américain. Et c'est le moment où on passe de 10% du capital du CAC 40, détenu par des fonds étrangers, à près de 50%. Et donc, assez naturellement, nos grandes entreprises ont joué ce jeu-là. Et donc, elles ont délocalisé, parce que ça coûtait moins cher. Elles ont conquis des marchés à l'étranger, etc. Mais ce n'est pas la même chose, en fait, que les Américains aient fait ce choix-là, parce que, à la fin, eux contrôlent le système financier. Nous, nous ne le contrôlons pas.
Ah, ça, c'est clair, oui, parce qu'on n'a pas de fonds de pension. Un petit point, justement, là-dessus. Juste, comment vous expliquez que le marché des actions, les marchés des actions, soient toujours aussi hauts là en ce moment? Il se passe des choses, il y a des mouvements sociaux, il y a des... l'Allemagne est en récession, pas la France. Comment vous expliquez ça?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les acteurs des marchés financiers, les gestionnaires d'actifs, les brokers, les banques d'investissement, sont des gens qui sont structurellement optimistes. Pourquoi? Parce que Si vous expliquez aux gens qu'il faut que tout va baisser, les gens, ils n'ont pas tellement envie d'investir. Ça, c'est la première raison. Deuxième point, il y a des effets qui sont liés à un scénario qui est en gros, les banques centrales vont gérer cette période. L'inflation va diminuer, il n'y aura pas trop de casse financière, les taux à long terme vont baisser et on va retrouver de la croissance. Personnellement, je n'ai pas ce scénario. Je pense qu'on va rentrer dans une période de stagflation. Pourquoi ? Parce que l'inflation sous-jacente, comme on dit...
Ce que vient de dire Christine Lagarde.
Va être plus élevée pour une raison très simple, c'est la déglobalisation. Pourquoi on n'a pas eu une inflation très faible depuis 20-30 ans? C'est parce que nous avons importé de la désinflation des pays émergents, de la Chine, des ateliers du monde, etc. Nous allons devoir, pour des raisons de souveraineté, modifier les chaînes de valeur, produire plus chez nous. Mais ça va coûter plus cher.
C'est pour ça qu'on dit que la fragmentation du monde, des économies, va encore accélérer cette inflation.
Oui, bien sûr. Et aussi parce que tous ces pays, c'est plus simplement, vous savez, les gens qui travaillent et nous, les cerveaux, c'est que ce sont devenus des compétiteurs globaux en termes de technologie dans les pays comme la Chine, mais on peut prendre aussi l'Inde sur certains égards, ont développé des capacités importantes. Et ça veut dire qu'ils ont un pricing power, comme on dit, sur beaucoup de choses. Donc, on aura plus d'inflation et on aura peu de croissance. Pourquoi ? Parce qu'il faut contenir nos déficits publics. Il faut contenir la dette. Donc, ça veut dire qu'il y aura une pression sur le pouvoir d'achat, donc sur la demande, si vous voulez. Ouais. Donc, c'est mon scénario. Alors, la troisième raison qui explique ça, c'est aussi, elle est technique, c'est tous les rachats d'actions. Je trouve d'ailleurs que dans la réforme, les réformes à faire de ce système de capitalisme, je pense que Biden a commencé à le faire aux États-Unis.
Absolument. Un petit peu dans l'accent sur le partage de la valeur, mais un tout petit peu.
Mais oui, mais je pense qu'il faut retrouver un certain équilibre de la partage de la valeur. C'est du bon sens. Je dirais que c'est même pas une question morale. C'est du réalisme économique. C'est du réalisme économique.
Comment rapidement, parce que le temps passe vite, mais c'est vrai qu'on a tellement de questions à vous poser. Est-ce que vous diriez que la France est en déclin ou décrochage ? Vous dites déclin, Hubert Védrine, qui préface votre livre, dit, moi je dirais plutôt décrochage. Oui. Mais on est en déclin ? La France est en déclin ?
Non, mais en déclin relatif, ce que j'écris dans le livre, par rapport aux autres pays. Le PIB par habitant français, aujourd'hui, c'est 15% de moins que l'Allemagne, c'était égalité par rapport à l'Allemagne. Ouais. Le PIB par habitant de la France est le 12e de la zone euro. On n'a plus que les pays du Sud et les pays de l'Est derrière nous. Quand on voit qu'on a supprimé 2 millions d'emplois industriels, c'est des faits, une balance commerciale, 250 milliards déficitaires, c'est un fait. Ouais. Donc, déclin, déclassement, je ne vais pas faire...
Mais en tout cas, on y est, quoi.
Il nous faut inverser la tendance.
Oui. Là, et du reste, vous dites la grande divergence qui existe entre l'Allemagne, parce qu'on voit bien, eux, ils sont, en termes de notation, ils sont nettement au-dessus de nous, hein, donc ça, c'est clair. Mais vous dites, je vous cite, la grande divergence franco-allemande, en fait, on la mesure à travers cette désindustrialisation de la France, les déficits, l'endettement croissant. Donc, en fait, on est en train plutôt de se rapprocher de l'Europe du Sud.
Oui, bien sûr.
Oui.
Non, mais il faut.
On va faire partie de l'Europe du Sud.
Une des difficultés de la période actuelle, c'est que le diagnostic global n'est pas partagé, pas assez débattu. Vous savez, il y a 2 ans, combien d'économistes expliquaient qu'on était dans une nouvelle ère monétaire, que l'argent serait toujours facile, etc. Et donc, il faut commencer par le diagnostic et il faudra s'attaquer à l'ensemble. Si on veut que les Français le comprennent, il faut que ça s'inscrive dans une démarche globale et avec une ambition globale, une ambition de puissance, je veux dire, pour le pays. Parce qu'on ne motive pas simplement...
Oui, vous dites que la France doit redevenir une puissance économique. J'ai envie de dire, ça, tout le monde le souhaite. Le problème, c'est comment ? Alors, vous dites, forcément, c'est un con pour un banquier historique, mais vous dites que ça passe par la réindustrialisation. Mais c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement. On voit que ce n'est pas si évident que ça.
C'est tout nouveau. Ouais. Et c'est très bien, le thème de la réindustrialisation, voire de la réindustrialisation verte, est un excellent thème. C'est nouveau. C'est que depuis 2-3 ans qu'on a fait le virage sur l'énergie nucléaire, si vous voulez. On a vécu dans le mythe créé dans les années 90 de l'économie servicielle. Mmh. C'est un mythe, parce que en fait, ce qui entraîne, qui crée la valeur ajoutée, c'est l'industrie. Et tous les pays qui ont le PIB par habitant le plus élevé sont les pays qui ont le taux d'industrie par rapport au PIB le plus élevé.
Oui. Et on voit bien avec, encore une fois, l'Allemagne. Parce qu'en plus, vous dites la déglobalisation dans laquelle nous entrons, on en a parlé à l'instant, ne rend pas le monde pour autant moins compétitif. Donc ça, c'est peut-être notre difficulté. Donc il faut qu'on le soit. Grande chance, la transition énergétique qui rebat un peu les cartes. Hein.
Ouais.
Ça, même clairement les cartes, notamment entre l'Allemagne et la France. On a fait des choix énergétiques très différents. On est dans l'affrontement, du reste. Ouais. Mais c'est peut-être ça la chance de la France.
Exactement. C'est un des points, au fond. Ce livre, c'est un livre de diagnostic, non pas des symptômes, mais des causes profondes. Deuxièmement, c'est un livre d'analyse de ce qui change en géopolitique et cette transition énergétique qui est au fond une révolution industrielle. Il faut arrêter de la prendre d'une manière morale, il faut la prendre pour ce qu'elle est. C'est une transformation industrielle. Il faut réinventer l'énergie, changer les produits, changer les modes de production, changer les usages. Donc quand on rebat la donne, il y a, une option, une possibilité de reprendre en fait le lead. Et d'autant plus que, héritage de l'époque de Gaulle-Pompidou, on a un système énergétique qui est un des plus compétitifs au monde en termes de prix et le plus vert.
Mais regardez, l'Allemagne n'a pas eu de cesse que de nous le casser.
Mais oui, mais c'est, si vous voulez, il y a, oui, mais vous savez,
mais on s'est laissé faire. Hein.
Oui, mais la vie des rapports entre pays, y compris en Europe, c'est pas un monde de bisounours. Ouais. Chacun doit défendre ses intérêts. Il faut qu'on défende les nôtres de la même façon.
Ce qui est drôle, c'est que vous citez évidemment plusieurs fois Georges Pompidou, parce que lui, qui était, on l'a suffisamment reproché d'être de défendre l'industrie, peut-être un peu trop, mais qui est dirigé de la Banque Edmond Rothschild. Donc voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, évidemment. Vous dites aussi, en fait, le retour. Vous prenez le retour du politique, du primat, du politique sur l'économie. Et le politique, ils nous ont conduits dans le mur.
Sur ce point, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qu'on entend avec François Ewald? Si vous voulez, au début des années 90, il y a un auteur qui avait été phare, qui s'appelait Fukuyama. Et je l'avais d'ailleurs fait inviter au premier forum d'Amundi. On avait mis la géopolitique. C'était l'idée que, au fond, le monde allait être un grand village, partageant nos valeurs, les valeurs libérales, etc. Et qu'au fond, le problème des compétitions, des confrontations, se posait plus. Et on pouvait le croire à l'époque, puisque c'est l'effondrement de l'Union soviétique, etc. Sauf que le monde s'est créé n'est pas devenu ça. C'est qu'en fait, ce qu'on assiste, c'est le retour des nations, le retour des volontés de puissance.
Oui, on s'est complètement trompé, moi. C'est ça qui me fascine, hein, quand même. On s'est complètement trompé. Les choix ont été, depuis les années... Enfin, du reste, c'est vous-même qui le décrivez. Hein.
Oui, mais oui, parce qu'il faut se remettre dans l'esprit.
Mais maintenant, on fait quoi? Alors, rapidement, que fait-on? Parce qu'il vous reste 2 minutes pour dire ce que vous faites.
Que fait-on? Il faut que 3 acteurs se transforment. Je vais le faire très simple. L'État doit se réformer pour redevenir un État stratège et pas un État thérapeute. Ouais. C'est-à-dire, il faut dépenser moins pour dépenser mieux. C'est possible.
Tout le monde essaie de le faire et personne n'y arrive. Hein.
On ne l'a jamais vraiment fait. Ouais. Bon. Deuxième point, il faut que les entreprises prennent davantage en compte l'intérêt général du pays, et pas simplement l'intérêt des actionnaires. Et c'est pour ça que je suis pour une mobilisation de l'épargne des Français davantage en faveur des entreprises françaises. Le grand drame des années 90, c'est que on a dénoyauté les privatisations en balladure, on n'a pas créé de fonds de pension, et donc nos fonds de pension, les propriétaires, donc des entreprises, ils se trouvent, sont trouvés aux États-Unis.
Comment suite votre pacte, troisième pilier, c'est le citoyen. Les citoyens, ils veulent pas français,
plus.
Ils veulent pas.
Oui, mais le
citoyen. Ils n'ont jamais voulu de fonds de pension, ils n'ont jamais voulu de réforme des retraites.
Mais attendez,
ils ont
le citoyen, il ne se préoccupe pas des fonds de pension, d'être.
Quand même, si.
Mais attendez.
La réforme des retraites, ça va être la privatisation.
Vous savez, on dit que les Français dans les sondages, sont parmi les peuples les plus pessimistes au monde. Ouais. Alors moi, je dis, dans mon livre, je dis, en butane, je dis, c'est peut-être parce que, en fait, c'est les plus lucides. C'est-à-dire que les Français, au fond, sont conscients, en fait, que si on continue, ça ira mal, globalement, pour le pays et pour eux. Et vous voyez que, par exemple, la question de la dette, qui était une question absence. Aujourd'hui, 3/4 des Français sont préoccupés par la dette.
Oui, il y a un sondage qui a duré.
Et donc, je pense qu'il faut tenir un langage de vérité aux Français. Il faut ensuite que tout le monde fasse un effort. Les citoyens, les entreprises et l'État. Et retrouver ce qui existait sous la période de Gaulle-Pompidou.
Et en fait, votre livre, franchement, je vous conseille de le lire. En général, je dis rarement ça, mais parce que je trouve qu'il y a une analyse de ce qui se passe aujourd'hui, de pourquoi on est arrivé là. Moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Les réformes, on est bien d'accord, mais toute la difficulté. Merci beaucoup. Vous reviendrez nous parler de la banque Edmond Rothschild, parce que là, pour le coup, on n'a plus le temps pour nous dire pourquoi vous avez quitté Amundi pour prendre la présidence de cette banque aux côtés d'Ariel de Rothschild. Ariane de Rothschild, ça sera pour la prochaine interview. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Yves Perrier, notre invité. Quelle économie politique pour la France? Préface d'Hubert Védrine, donc coécrit avec François Ewald. Et c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Yves Perrier, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Tout de suite, Tech & Co. Vous saurez tout sur la keynote d'Apple. Grâce à qui? Grâce à François Sorel. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming.